Le Grand Dialogue.
Sigika Fomba.
Idowani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halud Mouni.
Chenni Berry. Sigika Fomba.
Insécurité dans le pays, libération de Sanogo et co-accusés, grève et recrutement des enseignants, organisation des législatives 2020. Le forum de la presse s'intéresse à ces sujets. Et comme invité, nous avons Célia Dalmeida, journaliste, Ibrahim Koulibaly d'IIC de la Nouvelle Tribune et Yehia Tandina de l'ORTM Tombouctou sera au téléphone. Je suis Mouhamadou Touré. Chers invités, auditeurs et téléspectateurs de Studio Tamani, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue.
Le Grand Dialogue.
Le premier thème de ce forum de la presse, la situation sécuritaire dans le pays qui inquiète de plus en plus les populations et certains partenaires et même des membres du gouvernement ont réagi sur la question. Célia Dalmeida, quel est votre point de vue sur cette situation sécuritaire dans le pays?
Bonsoir Monsieur Touré, merci de m'avoir invité. Bonsoir à tous les auditeurs de Studio Tamani. Je pense que mon point de vue ne va pas être très, très différent des autres citoyens maliens puisque je vis au Mali et que cette situation nous concerne tous. La recrudescence des actes non seulement terroristes dans les zones où ça se déroulait déjà, mais aussi des attaques à main armée de plus en plus à Bamako fait vraiment monter la tension au sein des populations, ne serait-ce que les deux dernières semaines. À Bamako, si on se sentait épargné, les deux dernières semaines ont montré que l'insécurité descendait de plus en plus. Malheureusement, l'attaque de Sokolo a montré que Bamako était pratiquement dans la ligne de mire de ces personnes-là, puisque la région de Ségou est à 200 km de nous. Et donc, l'inquiétude est croissante. Elle existait déjà. C'est pas nouveau depuis 2011. Cette situation, nous la connaissons. Mais les derniers événements ne rassurent pas beaucoup.
D'accord. Ibrahim Koulibaly, la situation, est-ce qu'elle est en train d'évoluer positivement ou négativement?
Merci beaucoup. Je profite pour souhaiter bonne heureuse année 2020 à tous vos auditeurs et auditrices.
Merci.
Pour parler de la situation sécuritaire au Mali, dans notre pays, franchement, je pense que la comptabilité macabre, on pensait que c'était fini avec 2019. Donc c'est une erreur. On a vite fait d'enterrer l'année 2019 avec tout son cortège de malheurs, de morts de tous les jours. C'est comme si les mêmes acteurs venaient nous rappeler qu'ils sont toujours là. Donc, le premier mois même de l'année 2020, combien d'attaques, combien de morts? Moi, je pense que ces gens-là viennent nous rappeler pour vous dire que, bon, si vous pensez que c'est fini avec 2019, nous sommes encore là. Ce qui veut dire que les autorités doivent doubler d'efforts. Il est temps que les gens prennent la question sécuritaire au sérieux. Je ne dis pas que ce n'est pas pris au sérieux, mais je trouve que ce n'est pas à ce fait. Puisque si vous prenez le poste qui vient d'être attaqué, aucune rébellion n'a épargné Djabali. Toutes les rébellions ont attaqué la même zone. Les gens devraient savoir que la même zone allait être attaquée. Mais pourquoi on n'est pas préventif? Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, avait dit, je ne sais pas si c'était son discours de Nouvel An, que l'armée allait changer de stratégie, que ça n'allait plus être la défensive, mais l'offensive, qu'ils allaient à la traque de ces gens-là, de ces terroristes-là. Mais si tel était le cas, les points d'entrée sont connus. On sait où ils frappent. Donc pourquoi ne pas aller les chercher, les déloger? Donc franchement, moi je ne comprends pas ce qui se passe. Je trouve que la situation devient de plus en plus compliquée. Si les autorités pensent qu'avec l'acquisition de quelques équipements militaires présentés à grande dose de publicité, ils pensent qu'avec ça on peut résoudre le problème. Moi je pense que la situation est plus grave que ça. Il est temps, en tout cas, que les plus hautes autorités prennent cette question avec le plus grand sérieux.
D'accord. Yehia Tandina, Ibrahim Koulibaly dit qu'il ne comprend pas ce qui se passe. À Tombouctou, au nord du Mali, est-ce que les populations comprennent ce qui se passe?
Bon, tout d'abord, pour donner bonjour à l'ensemble des auditeurs du studio Tamani, et je voudrais dire quand même qu'il faut reconnaître la région de Tombouctou connaît une certaine accalmie depuis novembre 2019. Cela est à saluer grâce à une synergie d'actions engagées par la SEMA et les forces armées de sécurité maliennes. Je crois que c'est pourquoi il faudrait faire avec toutes les forces autant on peut pour apporter un peu de quiétude à nos populations. Ceci étant, je savais depuis un moment quand on disait que dans le nord du Mali, les postes, les positions de l'armée ont reculé pour revenir dans les grands centres. Cela a déjà donné un terrain vide et pour déporter la crise ailleurs. Et ce qui est temps aujourd'hui, ce n'est pas seulement au centre, mais nous voyons que la région de Ségou est plus que menacée. Et l'inquiétude, c'est que si Bamako est touché, cela veut dire que c'est le Mali qui va disparaître, ça c'est sûr. Donc je crois que si des dispositions ne sont pas prises, nous risquons, tout le pays risque de tomber quand même dans ce gouffre que le Nord a vécu un moment, même si aujourd'hui il y a une petite accalmie dans ces zones. Et aujourd'hui, les opérations sont menées au niveau des frontières Mali, Burkina, Niger. Et actuellement, c'est le centre et puis une partie du sud du Mali qui sont menacées.
Quelle utilité des services de renseignement maliens? C'est la question que se posent aujourd'hui certains citoyens lambda. Est-ce que vous pensez que cette question, elle est justifiée aujourd'hui?
Ben, je pense que oui, puisque la guerre que nous livrons aujourd'hui, on le dit depuis, et tout le monde s'est rentré dans notre vocabulaire, est une guerre asymétrique. Donc c'est une guerre où il n'y a pas un ennemi positionné quelque part, et tu sais qu'il y est, et comme disait le confrère ici, tu t'en vas le chercher. Ce sont des unités extrêmement mobiles, ce sont des fois des individus ou des petits groupes qui agissent, et avec des moyens techniques et technologiques très importants. Hein? Et il est important donc qu'en face, nous ayons le nerf de la guerre aujourd'hui, qui n'est plus l'argent, mais qui est l'information. Il est important que nos militaires puissent avoir une vision aérienne des alentours de leur camp, pour savoir qu'il y a des colonnes de véhicules ou de motos qui sont en train d'arriver. Par exemple, ça permet d'éviter les attaques ou au moins de limiter l'impact malheureusement très mortifère de ces attaques-là. Je pense que ça doit être, et j'ai entendu qu'il y avait dans le courant des semaines à venir au niveau des partenaires des investissements dans ce sens-là. Et je pense que ça va vraiment être essentiel pour la réussite de cette guerre qui est en cours, que nos militaires sachent où sont les gens, qu'est-ce qui se passe, et la maîtrise de l'information. Et pour ça, le renseignement, pas seulement avec les... J'entends beaucoup parler de drones. Pas seulement avec les drones, mais aussi avec... Et là, c'est un autre travail à faire avec la collaboration des populations.
Et on va y revenir sur cette collaboration avec les populations. Il y a le haut représentant du chef de l'État pour le centre du Mali qui estime que des émissaires ont été envoyés à deux chefs djihadistes, Yadar Ali et Amadou Koufa. Est-ce que vous pensez que cette négociation avec les djihadistes, elle est opportune? Est-ce qu'elle est nécessaire?
Bon, moi, je pense qu'il faut situer les événements dans leur contexte. Si vous vous rappelez très bien, le président Diongounda était président de la République et disons chef de l'État, pendant la transition. Et c'est lui qui a organisé les élections qui ont permis au président Ibrahim Boubacar Keïta d'être président. Comment on a pu organiser les élections? C'est en négociant avec les mêmes gens pour qu'ils laissent les élections se dérouler. Donc c'est des acteurs qu'ils connaissent.
Donc ils se connaissent également là où ils se trouvent.
Ils se connaissent entre eux. Donc aujourd'hui, nous sommes dans un contexte d'élections législatives. Le président de la République a proclamé à la face du monde, au sommet des Nations Unies, que les élections législatives auront lieu d'ici mai 2020. Donc, ça devient une obligation pour lui de tenir ces élections-là. Or, tout le monde sait qu'aujourd'hui, sans un accord avec ces acteurs-là, l'élection n'est pas possible partout sur l'ensemble du territoire. Donc, ce n'est pas une simple coïncidence. Donc, maintenant, le président Diongounda, en charge de cette région, on sait aujourd'hui qu'aujourd'hui, il est plus facile de tenir des élections à Kidal que dans le centre du Mali. Donc lui, en charge de cette région, il sait avec qui négocier, il sait avec qui parler et il sait comment les parler. Donc moi, je pense que ça va être une très bonne chose. Ça va amener une certaine accalmie pour que les élections se déroulent. Mais après les élections, il faut que les négociations continuent pour que ça aboutisse à une paix définitive. Donc moi, je pense que c'est ça la réalité. J'ai entendu beaucoup de spéculations. Moi, je pense qu'à l'échelle d'un pays, rien n'est de trop, aucun sacrifice n'est de trop. Si on sait à un moment donné qu'on ne peut pas faire autre chose vis-à-vis de l'ennemi que de discuter avec lui. Mais pourquoi pas discuter avec lui? Si ça permet de sauver des vies humaines, si ça permet de reprendre l'économie, si ça permet de reprendre en tout cas la vie sociale, toutes les activités au niveau de ces régions-là, moi je pense que c'est une bonne chose.
Même avec la question de l'Azawad qui est en jeu?
La question de l'Azawad, ça c'est un autre débat pour moi. Parce que pour moi, la question du centre est beaucoup plus sérieuse que la question de l'Azawad. Sur la question de l'Azawad, moi j'ai ma propre opinion, ça n'engage que moi. L'Azawad, moi je pense que c'est du banditisme pur et simple. Ça n'engage que moi.
On va demander
ça,
à Yaya Tandina s'il partage.
Ça, c'est des maîtres chanteurs qui font chanter l'État pour avoir ce qu'ils veulent. Alors qu'au centre, c'est un vrai problème.
Yaya Tandina, est-ce que vous partagez ce point de vue de Ibrahim Koulibaly?
Non, point du tout. Parce que moi, je dirais simplement à M. Ibrahim Touré que c'est vrai, si Diokounda avait négocié dans un premier temps pour la tenue des élections, cette fois-ci, je crois qu'il a adopté la mauvaise stratégie en annonçant déjà la stratégie qui sera adoptée. Et ça, ce n'est pas de l'intérêt quand même de ces djihadistes. Et je crois qu'il fallait attendre que tous les points soient... qu'on soit d'accord sur des points avant d'annoncer quoi que ce soit. Et ceci étant, vous voyez déjà qu'il y a une certaine réticence. Et c'est pourquoi je dirais que ces djihadistes feront tout pour ne pas permettre la tenue de ces élections. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, mais je crois que la négociation, elle doit être menée parce que tout simplement, si vous avez vu par exemple les séparatistes, en son temps quand on avait négocié, ils étaient carrément pour la séparation du pays, la division du pays, pour l'Azawad et le Mali. Et ceci étant, mais ils sont revenus à des meilleurs sentiments en acceptant. Et je crois que ceux-ci qui ont un objectif, il s'agit de l'application de la charia. Je crois que c'est à négocier. Et il n'est pas dit qu'obligatoirement nous allons accepter ce qu'ils diront, mais il pourrait avoir un point de convergence. Parce que je vous dis, même si aujourd'hui ces djihadistes arrêtent toute opération envers l'armée ou autre puissance internationale, de toute façon, ce qui est sûr, le Mali ne pourra pas occuper l'ensemble de son territoire. Et ces zones inoccupées seront toujours sous charia. Et ça, je peux vous dire que dans la région de Tombouctou, il y a des localités qui n'ont jamais vu l'administration présente et ces zones ont été toujours sous charia, même avant l'arrivée de ces gens, et continueront à être sous charia et actuellement sont sous charia et appliquent la charia convenablement. Donc ces zones qui sont déjà sous leurs mains et que l'État ne pourra pas toujours contrôler, pourraient être des zones à négocier, à voir si, dans le cadre de la synergie, comme en Mauritanie, cela s'est passé, comme au Nigeria, au Kano et quelque part dans d'autres localités, l'expérience nous a permis aujourd'hui de comprendre qu'il ne s'agit pas d'aller en guerre, qu'on ne pourra jamais vaincre, parce que nous n'avons ni les moyens ni les ressources humaines encore de faire face à cette situation actuelle. Et encore moins les Occidentaux qui sont en train de nous aider, qui ont également beaucoup de difficultés à faire face à la situation actuelle. C'est pourquoi j'ai dit, aujourd'hui, Diokounda devrait se calmer, se taire, et engager sa stratégie, voir à quoi ça va aboutir au lieu d'en parler. Le fait de parler déjà, ces gens-là, ils sont en position de force, peuvent se permettre de tout faire et même empêcher à la tenue de ces élections qui aujourd'hui constituent une activité majeure pour le pays.
Collaboration entre forces armées et population, vous en avez parlé. Certains habitants de ces zones frappées par l'insécurité estiment qu'ils ont peur pour leur sécurité. Alors, est-ce qu'il y a un dispositif réel qui peut être visible aujourd'hui par rapport à la sécurisation de ces personnes si elles décidaient de collaborer avec les forces armées maliennes?
Non, je pense qu'il n'existe pas de dispositif aujourd'hui, à ma connaissance. Je ne suis pas, à chaque fois, je le répète, je ne suis pas expert militaire, je ne suis pas au courant de tous les dispositifs mis en place, mais je pense qu'il n'existe pas de cadre dans lequel les populations peuvent... rapporter des situations, dénoncer, etc. Il y a des numéros verts qui sont à disposition, dont la plupart du temps ne marchent pas. Il est important de le souligner. On a fait l'expérience d'essayer de les appeler. Et aussi, les gens ont peur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, parce que il y a eu de nombreux cas d'assassinats qui se sont révélés ensuite être des représailles, parce que les groupes armés présents dans cette zone estimaient que l'individu ou la communauté avait collaboré avec soit les forces de défense de sécurité maliennes, soit avec les forces étrangères. Et donc, il est important, effectivement, de réussir à recréer déjà la confiance. De réussir à recréer déjà la confiance, qui aujourd'hui n'est pas son beau fixe entre les FDS et nos populations, déjà parce qu'auparavant il y a eu des situations qui ont mis à mal cette confiance, mais aussi parce qu'il y a cette menace de représailles. Et réfléchir, je pense qu'il y a d'autres pays où ça a marché. Tandina donnait des exemples tout à l'heure. Il y a d'autres pays où des choses ont été faites qui ont marché. Donc pourquoi ne pas copier et adapter au Mali pour voir comment est-ce que, même si les gens ne viennent pas directement dénoncer, qu'il y ait la possibilité de faire remonter un certain nombre d'informations, comme des mouvements par exemple, parce que quand les gens passent, ils passent dans des villages, etc. Donc pour pouvoir rapporter ces mouvements-là, c'est extrêmement important. Le problème, c'est qu'il y a une vraie défiance aujourd'hui entre nos populations et les FDS, qu'il faut travailler à corriger. Et ce n'est pas forcément en faisant des dons de forage, mais c'est un travail vraiment plus en profondeur qu'il est important de faire avec nos populations.
Et c'est dans ce contexte que le gouvernement a annoncé l'organisation des élections législatives dont le premier tour devrait se tenir le 29 mars 2020. Alors, dans ce contexte, est-ce que les élections législatives, Ibrahim Koulibaly, pourront se tenir partout au Mali ?
Bon, pourront se tenir partout au Mali, ça c'est trop dire, hein, parce que depuis cette situation, il n'y a pas une seule élection qui a requis quand même qui a pu embraser, qui a pu se tenir, disons, sur l'ensemble du territoire. C'est extrêmement difficile. Nous avons un très grand pays. Il faut que les Maliens s'en rendent compte que nous avons un très grand pays dont il est difficile de contrôler l'ensemble du territoire. Et surtout que la majeure partie est désertique. Donc, c'est extrêmement difficile. Et nous faisons une frontière avec combien de pays? Donc, c'est des frontières que nous ne pouvons pas seuls sécuriser. Donc, mais en parlant du contexte, une élection, pour moi, c'est des compromis. C'est des compromis. Est-ce qu'il faut laisser le bon fonctionnement des institutions de la République parce que c'est impossible de faire sur l'ensemble du territoire, ou bien faire avec ce qu'on peut et ce qu'on a pour que les institutions de la République continuent à fonctionner? Pour moi, c'est ça la question. Parce que sans institutions, qui va résoudre les différents problèmes? Qui va résoudre les différentes questions brûlantes?
Mais aujourd'hui, sans les élections, est-ce que ces institutions ne fonctionnent pas?
Ces institutions fonctionnent, mais il y a la loi. Il y a des limites. Le mandat de l'Assemblée est terminé il y a combien de temps? Les populations ont manifesté. Ils sont partis faire des barricades devant la porte de l'Assemblée. Il y a même des députés qui avaient dit qu'ils allaient renoncer à leur traitement. Donc, il y a la loi. Ça fait combien de reports? Mais aujourd'hui, si on tente de faire ces élections-là, mais on va voir là où c'est possible de le faire. Donc, pour répondre un peu à mon confrère Tandina qui semblait vouloir accuser Diongouda d'avoir pris langue avec ces auteurs-là, moi je pense qu'il faut savoir ce qu'on veut. On ne peut pas dire que bon, ce n'est pas possible et c'est possible. Mais si c'est possible, c'est possible comment? C'est possible en prenant langue avec ces gens-là. Moi je pense qu'aujourd'hui, si ces gens-là acceptent que les élections se fassent dans des endroits où ils contrôlent, où est le problème? Ils peuvent accompagner le processus. Avant tout, c'est les Maliens, même si on ne se comprend pas sur l'essentiel, mais avant tout, c'est les Maliens. Du moment qu'il y a eu un premier exemple, du moment qu'on a pu négocier avec eux pour la tenue des élections présidentielles, pourquoi ne pas faire le remake, le même système, pour que les élections législatives puissent se tenir pour le bonheur de l'ensemble des Maliens? Et moi, je pense que aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, et la position de l'État malien n'est pas tenable, et la position de ces gens aussi n'est pas tenable. Il y a l'usure qui fait son effet. De plus en plus, chacun aspire à la paix. Autant l'État malien n'est pas en paix, autant les populations maliennes ne sont pas en paix, autant les occupants aussi ne sont pas en paix. Donc cette situation, à un moment donné...
Mais eux veulent-ils être en paix?
Oui. Non, ce qui est sûr là, leur visée, ce n'est pas d'être dans... Parce qu'ils veulent s'installer tranquillement et appliquer ce qu'ils veulent. Mais ils sont là, mais ils ne sont pas tranquilles. Donc aujourd'hui, moi je pense que si le président Diongouda peut négocier avec eux pour ramener la paix, pour qu'ils puissent avoir des élections, et partir de là que cela soit un point de départ.
Mais Tandina disait que même s'il devrait le faire, il peut le faire, mais sans communiquer là-dessus, parce que le fait de l'annoncer, ça pourrait être un blocage pour ces négociations.
Au contraire, parce que pour terminer, Diongouda est en mission. Il fonctionne avec l'argent public. Donc il a un devoir de redevabilité. Il faut qu'il informe les populations maliennes sur ce qu'il est en train de faire au cours de son mandat.
D'accord.
Donc pour moi, cette communication, elle est d'abord stratégique parce que ça met en confiance même notre partenaire. ils sauront que Diongouna n'est pas en train de parler, de négocier à son seul nom, mais il parle au nom de l'État malien. Ça les rassure, ça les remet en confiance et ça rassure tous les autres acteurs qui sont dans ce jeu-là. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, cette communication est une bonne communication, c'est une communication stratégique. Ce n'est pas parce qu'on a annoncé que...
Merci beaucoup, Ibrahim Koulibaly. Alors, Yaya Tandina, au nord du Mali, notamment à Tombouctou, les populations s'attendent à quel type d'élections législatives ?
Bon, comme les autres élections passées, mais ceci étant, je crois que ces élections qui profilent en réalité seront butées à plusieurs obstacles. D'abord, en lisant le dernier communiqué de la CMA, c'est alors que nous savons que pour les présidentielles, c'était vraiment avec des accords bien définis qu'on a pu tenir ces élections dans les zones du Nord. Et ceci étant, je crois que cela n'est pas au bout fixe. Et l'opposition a également dit qu'il y a une décision unilatérale du pouvoir en place. Ça, c'est des obstacles auxquels nous serons confrontés. Et pour réconforter mon confrère Koulibaly, je lui dirais tout simplement que j'ai jamais dit que les négociations entamées par Diongouna ne sont pas une bonne chose, mais j'ai dit simplement qu'il devrait diminuer la communication par rapport à cet aspect. Et lui-même, il l'avait dit, si il a pu organiser des élections au cours desquelles le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu, c'est parce que tout simplement, il y a eu des négociations. Il pouvait faire ces mêmes négociations tous en se taisant. Nous savons qu'il est en train de travailler. Il a engagé des hommes qui sont sur le terrain en train de travailler. Nous savons ce qui se passe. Et c'est vrai, nous, notre devoir, c'est d'informer. Mais il y a des choses sur lesquelles nous devrons nous taire en attendant que les choses aboutissent. Mais dans ce contexte actuel, je vous dis, les élections, en réalité, ne constituent absolument rien pour ces djihadistes qui ont une vision. En tenant compte de la position d'Yadda Gaghali par rapport à l'Azawad, il tient beaucoup à cela. Et Amadou Koumfa également, si vous voyez, même quand il parlait de la libération du Massina. Ça, c'est des composantes sur lesquelles nous devrons mettre l'accent d'abord avant de comprendre l'application de la charia. Et si on essaie de libérer une partie du Massina, peut-être que ces zones qui ne seront pas contrôlées par l'État, alors peut-être on peut les intéresser à ceci. Et ça aussi à condition que le Mali essaie de négocier avec ses partenaires pour que leur sécurité soit assurée. Parce que même si le Mali négocie et qu'eux, ils acceptent, la communauté internationale ne serait pas d'accord de laisser ces gens tranquilles. Alors cela fera l'objet d'une autre négociation pour voir avec les partenaires comment on peut assurer la survie d'IAD et de Koumfa. Parce que déjà, ils ont entamé quand même la survie quand même de beaucoup de ressortissants de ces pays. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai dit, la négociation, c'est à plusieurs niveaux, ce n'est pas seulement à la tenue des élections.
Concernant les élections, vous avez parlé de la réaction de la CMA qui demande que ces élections législatives se tiennent également dans les nouvelles régions. Alors, est-ce qu'il y a le président de la commission loi sur Studio Tamani ici qui a estimé que ces élections législatives ne pourront pas se tenir dans ces nouvelles régions. Alors, est-ce qu'il va y avoir changement ou sinon, qu'est-ce qui pourrait se passer si ces élections ne se tenaient pas dans ces nouvelles régions?
Oui, c'est pourquoi j'ai déjà dit qu'il faudrait revoir la position de la CMA. Il faut le réappeler à la table et puis revoir. Parce que si ce n'est pas possible, il faudrait carrément montrer par A plus B que ce n'est pas possible cette fois-ci. Mais il y a des possibilités par lesquelles il faut passer. Alors ceci étant, donc il devrait avoir d'abord un point d'accord avec ceci. Parce que d'abord, ce qui était prévu dans l'accord, c'est que ces réfugiés soient de retour. Et jusqu'à preuve de contraire, je ne vois pas en réalité ces réfugiés qui prennent... si c'est par mauvaise volonté ou bien si c'est par manque de volonté politique également de l'autre côté qui fait qu'aujourd'hui ces réfugiés ne reviennent pas. Donc la CMA tienne à ce retour de ces réfugiés pour pouvoir participer à des élections libres et transparentes. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut rappeler la CMA et essayer de revoir comment est-ce que nous pourrons faire organiser ces élections avec ces régions qui sont prêtes et dans quel contexte. Et ceci étant, avec l'accord de la CMA, c'est sûr une grande partie quand même va accepter et on pourra aller à des élections législatives au moins d'une façon ou d'une autre acceptées.
Élections libres, transparentes et inclusives, peut-on s'attendre à ces types d'élections?
Le contexte est compliqué. Mes prédécesseurs l'ont dit et très bien décrit, le contexte est très compliqué. Il y a beaucoup d'inconnus à prendre en compte, mais je pense que ces élections ont été tellement reportées que finalement, il faut qu'on y aille. Maintenant, c'est aussi le devoir régalien de l'État de mettre en place les conditions pour que j'ai envie de dire entre guillemets, pour prouver sa bonne volonté. Parce que la question de la gouvernance est une question importante à laquelle les Maliens font de plus en plus attention. Auparavant, c'était que les partenaires internationaux qui en parlaient, de plus en plus de Maliens parlent de la question de la gouvernance et la bonne gouvernance. Et donc, il est important que même s'il y a des difficultés, comme l'a dit Tandina tout à l'heure, qu'on les explique, qu'on dise clairement aux gens pourquoi telle condition qui est pourtant importante ne pourra pas être respectée. Je pense que si on fait ce travail pédagogique-là, les Maliens ont assez... ont une conscience civique assez élevée pour comprendre ce qui leur sera expliqué et de faire en sorte que ces élections se passent et se passent bien. Je pense que tout le monde veut en tout cas que ces élections se tiennent. Il faudra seulement faire attention à ce que des décisions ne soient pas prises à la va-vite, sans communication, et que tout le monde se sente inclus. Voilà, dans le processus qui vient de démarrer.
Et le gouvernement qui estime que le dispositif sécuritaire mis en place pour organiser les élections présidentielles sera renforcé pour ces élections législatives, est-ce que cela est rassurant ?
Ça pourrait l'être. Là, je vais faire mon Saint Thomas, je demande à voir. Je demande à voir parce que pour la présidentielle, on a vu des villages attaqués, on a vu des bureaux de vote saccagés, brûlés, des gens enlevés, etc. Donc encore une fois, à chaque fois, il faut tirer les leçons des expériences du passé. Donc si ces leçons sont tirées, ben, on le saura, c'est dans quelques mois, dans quelques semaines.
Et sur Facebook, Souleymane Haïdara qui demande comment les déplacés vont voter ou leur voix ne compte pas.
Vous savez, les déplacés sont extrêmement importants. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, il faut faire la part des choses. Les déplacés, ils ne se sont pas déplacés de leur propre gré. C'est des événements qui ont fait qu'aujourd'hui, on les appelle des déplacés. Mais à l'échelle d'un État, à l'échelle d'une nation, est-ce qu'il faudrait reporter des élections parce qu'il y a des déplacés ? Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se serve de ces déplacés-là comme des boucliers humains. Déjà, c'est des gens qui sont blessés. Il ne faut pas les blesser une seconde fois en les utilisant comme des boucliers humains. Ce n'est pas parce qu'il y a des déplacés dans un pays qu'on ne tient pas l'élection. Quand on fait le ratio déplacé et nombre d'habitants restés sur place, à un moment donné, la gestion d'un État aussi, ça demande de prendre des décisions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens de la CIMA qui parlent de cette question de déplacés, ils ont participé à beaucoup d'autres activités sans parler de ces déplacés-là. C'est lorsque ça les arrange qu'ils amènent la question des déplacés et des réfugiés. Moi, je pense que sortons de ça, voyons l'État. C'est le Mali, voyons l'État. Voyons les choses à l'échelle d'un État, à l'échelle d'une nation. Sinon, les petits calculs politiciens, si on rentre dans ça, c'est le Mali qui va perdre. Moi, je pense qu'à situation exceptionnelle, on prend des mesures exceptionnelles. Je n'ai jamais dit que ces gens ne comptent pas, je n'ai jamais dit que ces gens ne sont pas importants, mais à l'échelle du pays, moi, je pense que si on peut faire les élections, il faut faire les élections. Même en temps normal, il y a des gens qui, de leur propre gré, ne votent pas. Le vote ne les concerne à rien du tout. Ils ne se reconnaissent pas dedans. Donc il ne faut pas qu'on essaie de faire de ces arguments-là pour mettre encore le pays dans les trous davantage. Nous sommes déjà dans les trous. Nous cherchons à en sortir. Nous cherchons à nous relever. Il ne faut pas qu'à cause des petites particularités qu'on essaie de mettre le bâton dans les roues de l'État malien. Moi, je pense que la situation est extrêmement grave. Il est temps que les gens se rendent compte que la situation est extrêmement grave. Et qu'il faut sortir de ces petits calculs. Parce qu'aujourd'hui, c'est quoi la réalité de ce pays-là ? Il y a des gens qui sont à Bamako ici, bien payés, ils sont dans toutes les conditions, logés, véhiculés aux frais de l'État, ils bénéficient de tout. Demain, si ça ne va pas, que Dieu nous en éloigne, ils peuvent aller vivre dans des pays voisins pendant 10 ans, 20 ans. Mais il y a des gens comme vous et nous, nous n'avons nulle part où aller.
Pourtant, il y a l'État qui dit, justement, je vais aborder le troisième sujet de ce grand dialogue, qui dit qu'il n'a pas assez de moyens pour satisfaire les revendications des enseignants qui prévoient une nouvelle grève au cours du mois de février.
La grève des enseignants, si vous voulez qu'on en parle, on va parler. Parce que la grève des enseignants, moi, je trouve que les enseignants, pour une première fois, n'ont pas demandé trop. C'est tout simplement une disposition de la loi.
L'application de l'article
39. L'application d'une disposition de la loi. Ils n'ont demandé que ça. Maintenant, moi je pense aussi que le pouvoir doit avoir le dos large, avoir beaucoup d'ingéniosité, avoir beaucoup de marge de manœuvre, parce que ce que je ne comprends pas, la gestion d'un État aussi, ça ne s'improvise pas. il ne sert à rien d'avoir un gouvernement pléthorique s'il y a des ministres qui ne peuvent même pas négocier avec un simple syndicat. Disons, si je dis, ce n'est pas diminutif. Hein. Mais si, ça dit que, c'est ce que moi, je n'arrive pas à comprendre. Un État doit être très fort, malgré cette situation, mais le fonctionnement d'un État, l'État doit avoir des hommes et des femmes à son sein, capables de faire face à de telles situations.
Alors, c'est quoi le problème, selon vous? La faiblesse de l'État, le manque de fonds, c'est quoi le problème par rapport à cette guerre?
C'est les deux. Moi, je trouve que indéniablement, il y a le manque de fonds. Parce que la situation fait qu'il y a des parties du pays depuis combien d'années qui ne payent plus d'impôts à l'État, les taxes douanières, rien ne rentre.
Mais vous estimez également qu'il y a certains à Bamako notamment qui vivent dans de très bonnes conditions.
J'estime que, tout simplement, l'État entretient des hommes et des femmes qui ne font pas leur mission, qui ne jouent pas leur rôle. C'est ce que je voudrais dire.
D'accord. Et Yaya Tandina va réagir sur cette question. Grève des enseignants et l'État qui prévoit le recrutement de 15 300 enseignants. Comment la situation, cette nouvelle, est perçue dans la région de Tombouctou?
Dans la région de Tombouctou, nous ne voyons pas le recrutement comme la solution parce que d'abord, même s'il y a un bon nombre, ce qui est sûr, aujourd'hui, nous avons à peu près plus de centaines d'écoles fermées dans la région de Tombouctou. Mais quelle est la stratégie qu'il faut adopter pour la réouverture de ces écoles? Par contre, certaines localités, depuis 2012 jusqu'à nos jours, les enfants n'ont pas été à l'école et n'ont rien appris que le bruit des kalachnikovs, des armes. Et ceci étant, je crois que...
Justement, certains estiment que le recrutement de ces enseignants volontaires devrait d'abord concerner les zones où les écoles sont fermées depuis longtemps, les zones où des enseignants ne sont pas disponibles.
Oui, dans ces zones, justement, ce n'est pas simplement parce que c'est l'État qui a demandé la réouverture des classes, c'est parce que il y a des nouvelles dispositions. On demande même que l'enseignement de l'arabe ou l'enseignement du Coran soit impliqué dans le système éducatif. Et ceci étant, on ne voit aucune disposition par rapport à cela. Donc même si nous recrutons au niveau des locaux même, ça ne veut pas dire que les enfants iront à l'école. Ça, ce n'est pas une garantie sûre. Je vous donne plusieurs exemples dans le cercle de Goundam, dans le cercle de Diri, le Gourma d'une façon générale dans la région de Tombouctou. C'est une zone entièrement occupée par les djihadistes qui empêchent carrément l'éducation actuelle, l'éducation classique, l'éducation avec les vertus occidentales. Et ceci étant, donc, même si nous recrutons, et même si nous déployons les 15 000 enseignants, il ne serait pas possible de rouvrir ces classes dans ces conditions.
D'accord. Célia Dalméda, que pensez-vous de cette mesure qui est annoncée par l'État pour faire face à cette grève des enseignants?
J'ai l'impression que c'est une mesure d'urgence. Et l'inquiétude est qu'elle ne résolve pas le problème. Mon inquiétude est à deux niveaux. Le premier niveau est la capacité de ces personnes que l'on veut recruter. C'est vrai, ils sont des sortants de l'IFM, pour beaucoup au chômage depuis plusieurs années, donc sans aucun recyclage, sans rien. Et avec quelles compétences vont-ils prendre des classes qui ont déjà commencé depuis plusieurs mois, sont en train de dérouler un programme? Avec quelles compétences? Comment est-ce que ça va se passer? Déjà, nous décrions le mauvais niveau. Allons-nous amener des enseignants qui ne sont... Voilà, vous avez compris ma préoccupation. Le deuxième niveau, c'est l'État et les syndicats sont en négociation. Une négociation difficile, comme on en a connu auparavant et comme on en connaît dans d'autres pays. Est-il... cette mesure est-elle un arrêt de la négociation? Est-ce que ces gens vont venir remplacer de manière définitive les enseignants? Il semble que ce n'est pas l'option. Alors, si, entre-temps, l'État finit par se mettre d'accord avec les enseignants, ces 15 000 personnes vont-elles retourner au chômage? Qu'allons-nous en faire? Voilà. Il y a tellement de questions.
Certains estiment même qu'ils risquent de ne pas accepter d'aller
de partir. Voilà. Donc il y a tellement de questions autour de ça. Je veux dire, si la mesure est de dire bien, très bien, les 90 000 enseignants qui sont en grève, on vous chasse et on prend des gens pour vous remplacer, ben allons-y. Disons-le très clairement. Ça a été essayé dans d'autres pays. Je ne sais pas si ça a marché. Je crois qu'on a déjà essayé ça ici d'ailleurs. Disons-le clairement et disons, ben, on va mettre des gens qui veulent travailler. Si on estime que les enseignants ne veulent pas travailler, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais la question reste vraiment entière parce que, comme Issé l'a dit tout à l'heure, la demande des enseignants, le Premier ministre le reconnaît qu'elle est légitime. Bah, si elle est légitime, je pense que dans toute négociation, on fait un pas les uns vers les autres. Donc, à qui ne veut pas faire de pas vers l'autre, peut-être qu'il faudra aussi déterminer cela et arriver. Les parents d'élèves sont là en train de regarder un peu cette situation avec détresse, avec dépit et sans beaucoup de poids dans la balance, parce que l'État avance des arguments pécuniers que les enseignants avancent aussi en disant que c'est leur droit. Il se l'a dit tout à l'heure, notre État a un train de vie qui, si on travaille un peu dessus, peut permettre de faire de grosses économies et faire face à certaines revendications. Puis, quoi qu'on dise, l'État c'est qui ? L'État c'est vous, l'État c'est moi. Hein ? Et si l'on augmente les charges de l'État, il faut bien que l'État aille chercher cet argent quelque part. Donc nous sommes tous en train de crier à la cherté de la vie, mais cette cherté de la vie s'explique aussi parce que nous voulons plus. Si nous voulons plus, Mahamadou, si vous voulez un salaire de 150 000 et que l'État n'a pas le moyen de vous payer 50 000 supplémentaires que vous demandez, l'État va les prendre dans votre poche. Il faut que nous comprenions cela et que nous fassions aussi la part des choses dans nos revendications. Parce que si nous demandons plus, l'État va augmenter les taxes, va augmenter le carburant pour générer de l'argent, pour pouvoir nous donner plus. Donc il faut que nous fassions attention.
D'accord. Et sur Facebook, Mamadou Ballo demande, ce recrutement exceptionnel du Premier ministre est-il la solution pour sauver l'école malienne ?
Bon, pour revenir sur cette question, moi je pense qu'à mon humble avis, il y a eu tout simplement un problème de communication. Le Premier ministre, franchement, s'est mélangé les pédales. Il y a eu un problème de communication. Donc, ils ont mélangé deux choses. Le programme de recrutement des 15 000 enseignants, c'est le programme de volontariat. Ils seront recrutés pour 6 mois. Donc, ça ne veut dire nullement qu'ils viendront remplacer les enseignants actuels embauchés. On ne va pas embaucher des gens 6 mois pour remplacer des enseignants pour toute une carrière. Donc moi, je pense que...
Mais le gouvernement souligne un problème de fond. Certains estiment que chacun de ces enseignants-là, volontaires, va bénéficier de 60 000 francs CFA, ce qui fait pour les 6 mois, pour 15 300 enseignants, plus de 5 milliards de francs CFA. Alors, ce coût économique comparé...
C'est ce que je vous dis. C'est-à-dire qu'il y a eu un problème de communication. Il y a un programme de volontariat qui permet de recruter 15 000 jeunes enseignants pour les recycler, pour les faire bénéficier d'expérience qui va remplacer les stages. C'est ça. Donc ce programme...
Moi, il fait mal choisi, alors.
C'est ça.
Justement, donc, et quelles conséquences sur les enfants ?
C'est ça. Ça, c'est un programme normal. Mais maintenant, le fait de vouloir l'annoncer dans les négociations avec les anciens, ça a été considéré comme si on voulait licencier les anciens et les remplacer par les 15 000. Les 15 000 ne suffisent pas. Quand on fait même sur le plan économique, ce n'est même pas intelligent. Parce que les 5 milliards peuvent servir à payer ce que les anciens demandent. Donc, économiquement, ce n'est pas intelligent. Et de façon pratique aussi, ce n'est pas faisable. Moi, je pense qu'il y a eu un problème de communication. Le Premier ministre est en train de rectifier ça parce que le discours qu'il a tenu et le discours qu'il est en train de tenir à Gao Tombouctou, ce n'est pas la même chose. Il a compris qu'il a fait une erreur de communication et il est en train de corriger cette erreur de communication. Parce que quand vous écoutez ces différents discours maintenant, vous allez vous rendre clairement que, effectivement, le premier discours, il s'était trompé de combat. Sinon, oui.
J'ai une question parce que je ne comprends pas très bien. Parce que pour moi, je me mets citoyen lambda, je suis parent d'élève. Hein, et j'entends que les enseignants vont partir en grève à partir du 17 février pour plusieurs semaines. Oui. D'accord ? À la même période, mon premier ministre me dit on va recruter 15 000 enseignants. Bah, moi, dans ma compréhension, voilà. Est-ce que maintenant... les négociations avec les enseignants. C'est-à-dire, ma question, c'est est-ce que ces 15 000 vont venir se mettre dans les classes en attendant que les enseignants finissent leurs négociations avec l'État, ou bien ils vont être envoyés dans des endroits où il n'y a pas d'enseignants du tout ?
Non, pas du tout. Ils vont dans des écoles, dans les mêmes écoles. C'est-à-dire, c'est
mais ils vont bénéficier de l'expérience de qui, puisque les autres seront en grève ?
Justement. C'est ça la grande question. Donc c'est là où on doit comprendre qu'ils ne viendront pas pour remplacer ces gens-là. Ces gens-là veulent bénéficier d'un stage qui se fait dans les conditions normales.
Est-ce la logique du gouvernement ?
Mais c'est ça la logique. Parce que quand vous voyez même la décision, c'est signé par le directeur national, c'est pas signé par le Premier ministre.
Du service volontariat qui relève du ministère de la Jeunesse et des Sports.
Donc moi je pense qu'il y a eu mélange du genre. C'est un problème de communication. Il faut qu'il précise ça. Sinon, quand on étudie très bien la question, Financièrement, ce n'est pas intelligent et pratiquement, ce n'est pas faisable.
Alors, j'espère que vous suivez votre conseil et expliquez mieux.
Et libération maintenant de Sanogo éco-accusé. On parle de libération provisoire. Comment cette libération est perçue par les populations de Tombouctou, Yeya Tandina?
Monsieur Touré, permettez-moi tout simplement juste de rebondir sur la question précédente.
D'accord, en une minute, parce qu'il nous reste 4 minutes pour le dernier sujet.
Non, il n'y a pas de problème. Juste pour dire que par rapport à ces enseignants, moi je crois que effectivement, comme Kourvali l'avait dit, c'était une question de manque de communication. Mais pourquoi on parle, le pouvoir en place a parlé de recrutement de 15 000 troupes pendant qu'ils sont en négociation? C'est là que la confusion, toute la confusion a été créée. Donc j'ai dit que ce n'était pas le moment. Cela devrait devoir réconforter les enseignants si on l'avait dit avant ou après les négociations. Bon, justement, pour revenir par rapport à la question de la libération de Sanogo. Moi, c'est sur deux points, parce que d'abord, si Sanogo a été libéré d'une façon provisoire, et cela sous-entend que nous voudrions aller quand même à la réconciliation avec l'ensemble des acteurs qui étaient à la base de la crise. Et là, c'est bien perçu. Mais quelque part, est-ce que cela va réconforter Sanogo par rapport à sa sécurité? Je crois non. Je répondrai exactement non, parce que pour le moment, justice n'a pas été rendue. Et les victimes n'ont pas été, ne se retrouvent pas dans une réparation. Je crois que ceci étant, il faudrait d'abord trouver la solution et que justice soit faite pour que nous puissions savoir de quoi est-ce qu'il s'agit au juste pour pouvoir donner satisfaction. C'est pourquoi ici à Tombouctou, pour la plupart des gens que j'ai abordés, m'ont dit d'abord Sanogo était à la base de l'occupation d'une grande partie du Nord, mais en plus c'est lui qui a fait dissoudre l'unité principale qui était aujourd'hui très très très... qui faisait peur quand même aux rebelles et même à beaucoup de malfrats qui faisaient face au pays. Et justement, je crois que cette libération ne réconforte pas tellement les populations du Nord. Ceci étant, c'est avec réserve que je parle, mais en abondant, certaines le voient plus autorisées.
Certains s'interrogent parmi les citoyens lambda et parmi certains acteurs de la société civile s'il n'y a pas eu d'arrangement par rapport à cette libération de Sanogo Éco-accusé.
Oh oui, cette question est beaucoup posée parce qu'il y a eu encore une fois des couacs de communication quelques jours avant la libération de Sanogo. Déjà, tout le monde au Mali était au courant que Sanogo allait être libéré et il y a eu beaucoup de choses, qu'il y a eu même des articles où des gens ont dit les termes d'une certaine négociation. Donc, en fait, comme je disais au début de l'émission, on est dans une guerre vraiment où l'information est vraiment importante. Et j'ai l'impression que la maîtrise de cette information, nous ne l'avons pas encore. Nous n'en prenons pas vraiment la mesure. Le cas Sanogo est un cas très important pour le Mali, pour la stabilité du Mali. Et il est important de maîtriser la communication autour de ce cas-là. Il y a parlé tout à l'heure, c'est avant tout une question de justice. C'est avant tout aujourd'hui. Laissons l'individu, ce qu'il a représenté, c'est d'abord une question de justice. On parle de mise en liberté provisoire, ça veut dire qu'il n'est pas libre, mais qu'on le relaxe de la prison en attendant qu'il soit jugé. Ce que je voudrais juste dire, c'est que j'espère que la vérité concernant cette affaire sera dite un jour à travers un procès.
Et certains s'interrogent si le procès va se tenir réellement.
L'histoire nous le dira.
Ousmane Maïga demande sur Facebook, la libération de Sanogo est une injustice envers les parents des victimes. Donc ma question est la suivante, pourquoi nos autorités encouragent l'impunité? C'est sa question.
Bon, moi je pense que les autorités avaient une patate chaude à tendre les mains. Elles s'en sont débarrassées tout simplement.
Donc vous pensez qu'il n'y a pas eu justice?
Non, il n'y a pas eu justice parce que Sanogo n'a pas été jugé. Donc Sanogo n'a pas été jugé.
Mais est-ce que le processus est terminé?
Il n'y a pas eu de justice. En tout cas, à en croire le procureur Maïga, il dit quand même que c'est une liberté provisoire. En cas de besoin, l'État le fera appel pour le jugement. Mais aujourd'hui, Sanogo et Éco-accusé sont libres. Donc pour leur propre personne, le fait de sortir de prison, c'est quelque chose pour leur personne, pour leur famille. Mais aujourd'hui, la question reste parce que c'est une question de violation des droits de l'homme. Or, tout le monde sait la ténacité des défenseurs des droits de l'homme. C'est des gens qui te traquent pendant 30 ans, 40 ans. Donc, pour l'instant, Sanogo est libre. Mais le problème n'est pas réglé.
Va-t-il se tenir? S'il y a réponse, que l'histoire nous le dira.
L'histoire
est-ce que vous pensez que le procès va se tenir réellement?
Peut-être que le régime actuel ne pourra pas le juger, mais tôt ou tard, il sera jugé. parce que tôt ou tard, les défenseurs des droits de l'homme mettront la pression sur le Mali. Après avoir signé toutes les conventions relatives aux droits de l'homme, le Mali sera mis sous pression. Et ce qui est sûr et certain, tôt ou tard, ces nouveaux accusés seront jugés.
Merci.
Maintenant, les commentaires.
On peut juger ceux que le pays ne peut pas juger.
La CPI, par exemple. Alors, merci Célia Dalmeida, journaliste, Ibrahim Koulibaly, DIC de la Nouvelle Tribune, et Yeya Tandina de l'ORTM Tombouctou était au téléphone à la régie. Vidéo et audio, Nouhoum Djiré et Seydou Ndaou. Je suis Mohamedou Touré. À vendredi prochain pour un autre forum de la presse.
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Et de Wani wa Makara. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenne Berry.
Halo Dumondi.
Chenne Berry. Sigi Kafoba.